vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états.
Intéressons-nous à la vie nationale avec Philippe Lorange. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, est-ce que pour être capable d'accueillir les employés chez Hydro-Québec, est-ce que je devrais dire ni hao? Est-ce que je peux parler chinois maintenant? Alors, ça a l'air de d'abord toute l'histoire de l'espion chez Hydro-Québec, ça jette aux poubelles tous les films de James Bond complets, là, hein? Quelqu'un de très athlétique, raffiné et tout, en tout cas sur la première page du journal, ça avait pas l'air de ça du tout. Mais comment c'est possible que quelqu'un qui s'exprime à peine en français et difficilement en anglais travaillait chez Hydro?
C'est une très bonne question, en fait, que je me suis posée, que d'autres se sont posées. Parce que Hydro-Québec, l'une des premières conditions pour être embauché, c'est de savoir parler français, d'avoir une connaissance du français. Puis là, on a su dans les journaux que, bon, finalement, dans certains cas dits exceptionnels, on pourrait embaucher quelqu'un qui ne parle pas français, mais sous la promesse qu'il suive un programme de francisation. Mais là, je me pose la question, comme dans d'autres, combien y a-t-il d'exceptions à ce point-là?
Et combien dure la période raisonnable pour l'apprendre?
Ah oui, c'est ça l'affaire, là. Parce que si on a comme plusieurs mois, puis finalement on doit même pas passer de test, mais là, on peut se poser des questions. Puis là, ce qui m'inquiète ici, c'est qu'on sait très bien que le centre-ville de Montréal est quand même très anglais, très anglophone. Bon. Hey, ça va pas du tout, la francisation n'avance pas, si on veut, une anglicisation du Grand Montréal. Et la partie francophone du centre-ville de Montréal, c'est Hydro-Québec, c'est le complexe des jardins, c'est l'UQAM, des institutions comme ça. Donc, si nos grandes institutions francophones commencent à s'angliciser, ou du moins à laisser une intrusion de l'anglophone, sans prendre au sérieux la question du français, de l'avenir du français au travail, mais là, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Puis peut-être, je crois que le gouvernement devrait faire une enquête sur ce qui se passe, non seulement sur l'espionnage, évidemment, mais sur l'utilisation du français au travail.
Il y a un côté où est-ce que, la vieille pub d'Hydro-Québec, si on est 12 012, bon, ben, c'est plus vraiment le bon chiffre, mais on pourrait presque pas croire que ça... C'est peut-être que c'est pour ça que ça prendra une enquête, ne serait-ce pour que se confirmer qu'on est dans l'exception la plus rare plutôt que la norme, parce que, justement, à la genèse de la création d'Hydro-Québec, il y avait cette idée de créer une expertise de génie en français. Et ça a été une réussite assez exceptionnelle. Maintenant, c'est difficile d'imaginer qu'on se promène dans les corridors d'Hydro-Québec à grands coups dans la langue de Shakespeare, là. Alors, peut-être que, ne serait-ce que pour s'enlever cette peur, l'enquête serait intéressante à ce niveau-là.
Je trouve ça bon que tu reviennes à l'origine de l'idée d'Hydro-Québec, puis on pourrait venir à l'origine de l'idée, par exemple, de l'UQAM, de Desjardins, de grandes institutions francophones comme ça, parce qu'on remarque, quand on étudie leur histoire, que leur idée de départ, c'est de faire en sorte que les Canadiens français, nos ancêtres, aient plus de pouvoir, qu'ils se prennent en main et qu'ils peuvent faire une société digne de ce nom, en français, comme tel. Mais on dirait qu'au fil des décennies, l'idée s'est perdue au profit d'une pure idée d'utilité, d'efficacité, de productivité, de telle sorte qu'on dirait que de plus en plus, d'année en année, l'idée de faire nation, de servir le bien collectif québécois, on dirait que ça prend le bord de plus en plus, de telle sorte que je crois que, on le remarque par exemple dans les universités francophones, les programmes bilingues prennent de la place. Puis là, pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour moi, c'est assez relié. Parce que par exemple, chez HEC Montréal, les programmes qui sont très populaires, c'est les programmes bilingues. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'on laisse place...
Oui, il y a un programme trilingue aussi, je pense.
Ça se peut, ça se peut. Mais si on voit que l'anglais fait de plus en plus son intrusion, et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on en voit dans le centre-ville anglophone, dans les grandes nations anglophones, je ne crois pas que quelqu'un qui parle uniquement français ou qui ne parle pas anglais pour être embauché sous la promesse qu'il va faire un programme d'anglicisation. Je suis vraiment pas certain.
Non, mais d'obliger les gens à parler anglais, là-dessus, l'anglais a une propension civilisatrice beaucoup plus grande, ou plutôt procélisatrice encore plus grande. Parlons, changeons de frontières. On va se diriger un grand bond à l'est, comme dirait Mao. En gros, le missile tombé en Pologne. Et là, il y a eu plusieurs types de réactions et il y avait, surtout du côté ukrainien d'ailleurs, ce qui était surprenant, presque un appel à l'engagement, là. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui envoie des étincelles autour de la poudrière. Et on était heureux de ça. Il y avait presque des échos de ceux qui ont vu le film, Doctor Strangelove, là. De va-t'en guerre. Et là, tu veux nous parler des vertus de la prudence. Et je suis assez d'accord. Qui as-tu vu mettre de l'avant ce genre de vertus et pourquoi ces vertus-là sont importantes dans le contexte actuel?
Ben, j'aime beaucoup ton expression, les étincelles autour, parce que si ce qui se passe en Ukraine, c'est extrêmement important. On sait que l'emballement est possible. Puis ça serait extrêmement grave. Puis là, ce qu'on a constaté quand il y a eu le missile, ben sur le coup, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations. Puis on sait que c'est un village qui est très limitrophe à la frontière ukrainienne. Puis là, tout de suite, on voit par exemple sur les réseaux sociaux des mots clics comme World War III. Puis là, on s'emballe pour dire on va vers la Troisième Guerre mondiale. Puis là, on a vu Zelensky dire bon ben c'est la preuve que tout l'OTAN doit embarquer. Puis il y en avait qui j'en avais vu une ukrainienne tweeter article 5 pour dire article 5 de l'OTAN qui veut dire tous les pays de l'OTAN une fois qu'il y en a un qui est attaqué, tous les pays doivent s'engager pour la guerre. Donc, autrement dit, c'est comme si du côté ukrainien, c'est comme si chez les dirigeants, chez ceux qui mènent la guerre, on est dans l'idée qu'il faudrait que le monde entier embarque dans cette guerre-là. Mais je crois pas, de un, que ça servirait tant que ça l'Ukraine, parce que là, ce serait le monde entier qui embarquerait là-dedans. Donc là, les Ukrainiens n'auraient plus seulement la Russie comme ennemi, mais d'autres grandes puissances. Donc, je pense pas que ça les aiderait tant que ça.
Et tu sais, Philippe, il y avait... Biden disait... Il y a une chose de pire que de devoir faire une guerre obligée, c'est de devoir faire une guerre accidentelle. Il faut bien choisir son moment. Et j'ai fait récemment une conférence qui mettait un parallèle intéressant entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise des missiles de Cuba. Et on oublie à quel point Kennedy était obsédé par cette idée d'éviter le jeu de domino qui, on sait très bien où est-ce qu'il va finir. C'est le bouton nucléaire. Mm-hmm. Et même de laisser aller, par exemple, les Russes à l'époque, avait fait tomber un avion américain et Kennedy avait joué le temps et avait essayé de ne pas prendre ce moment-là pour justifier un embrasement de la chose pour que on soit capable de trouver d'autres solutions. Et parce qu'effectivement, la Pologne et avec l'OTAN, c'est la clause mousquetaire. Hein, un pour tous pour un. Et il n'y a pas juste une puissance nucléaire contre une autre. C'est une puissance nucléaire contre trois. Et puis là, ben Richard Desjardins dirait, ben au lieu de nous tuer 10 fois, ils nous tueront 100 fois, mais dans les deux cas, t'es mort. Alors là-dessus, la vertu est la patience, notre vertu qui doit nous guider.
Ben je pense que oui quand même, parce que là c'est extrêmement important, puis on sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Puis je trouve que dans le conflit ukrainien, ben moi je trouve ça extrêmement important qu'on appuie l'Ukraine à 100%. C'est normal qu'on envoie un appui financier, de l'équipement militaire. Mais de là envoyer nos hommes, là on change complètement de registre. Puis il faut comprendre que ça peut être extrêmement grave. L'emballement que tu dis comme justement le jeu de domino, il faut l'éviter à tout prix parce que avec les innovations technologiques qu'on a aujourd'hui, l'armement nucléaire, c'est plus simplement des guerres du 19e siècle ou d'autres fois où il y a un seul tir puis après il faut recharger pendant 10 minutes. Tu sais, de nos jours, c'est extrêmement destructeur les innovations qu'on a militaires, puis on peut pas se permettre de faire absolument n'importe quoi. Plus qu'on a constaté dans les journaux, dans les jours qui ont suivi, de toute façon, c'est que le missile n'est peut-être pas de provenance russe ou on sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est une erreur, que c'est un missile de défense.
Peut-être un contre-missile ukrainien, mais...
C'est pas très bien.
Ça va être intéressant de voir la suite, mais là-dessus, il faut peut-être célébrer le fait qu'en anglais, on dirait « cooler heads prevail », c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit « prenons le temps ». Prenons le temps d'avoir les bonnes informations. Et c'est quoi la voie de sortie, s'il en est une, parce que rien n'est plus facile que de commencer une guerre. C'est de l'arrêter. Et là-dessus, il y en a un qui partagerait la chose, c'est Vladimir Poutine qui doit se dire, peut-être que j'aurais dû encore mieux calculer. Et comme tu le dis, Philippe Lorange, la patience est une vertu que M. Poutine aurait dû apprendre.
Oui,
Philippe Lorange, notre chroniqueur à la vie nationale, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au plaisir.